7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
La question du jour, des pénis en gouttière, des pénis à quatre glands, sonores ou même détachables, des vagins stockeurs, des clitoris épineux, la liste est longue. L'espèce animale regorge de stratégies adaptatives. Les organes génitaux, comme les pratiques sexuelles, ont ainsi évolué, pas uniquement dans le but de se reproduire. Que nous apprend la sexualité des animaux? Bonjour Emmanuel Pouy-Débat.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en biologie de l'évolution au CNRS, au laboratoire Mécanismes adaptatifs et évolution. Vous êtes spécialisée dans l'évolution des comportements. Abordée de manière interdisciplinaire, vous venez de faire paraître Sexus Animalus, Tous les goûts sont dans la nature aux éditions Artaud. Et la première question que je vais vous poser au vu de cet éventail de pratiques, cela signifie, c'est une évidence probablement pour vous, que les pratiques sexuelles des animaux ne s'en tiennent pas à un but reproductif.
Oui, tout à fait. Alors, une évidence, non, hein, sincèrement, rien n'est évident, on en découvre tous les jours sur le monde animal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de pratiques qui ne sont pas directement liées à la reproduction. Je pense en particulier à la masturbation, au cunnilingus, à la fellation, à la bisexualité, l'homosexualité en particulier. Il y a aussi des orgasmes. Et toutes ces pratiques sont forcément liées à du plaisir derrière et pas nécessairement à de la reproduction, même si on sait que certaines pratiques comme en particulier cunnilingus et fellation peuvent avoir un lien direct avec la prévention contre les IST, par exemple. On sait que ça a un but antimycosique ou antibactérien, par exemple. Mm-hmm. Mais il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas non plus du plaisir, et l'orgasme est prouvé d'ailleurs dans le monde animal.
Ça veut dire que les humains n'ont rien inventé?
Bah non, j'ai l'impression, plus je creuse, hein, que tout existe dans le monde animal. Chez les écureuils, on sait qu'il y a de la masturbation, par exemple. Alors après la copulation pour limiter les IST, mais ça existe aussi chez les koalas, les chevaux, les kangourous, les grands singes, les dauphins. Enfin bon, ce sont des pratiques qui sont pas isolées. Et chez les macaques aussi, vous avez des femelles qui vont aussi se masturber, parfois même sur d'autres animaux. Franchement, tout existe, hein, j'ai l'impression.
Dans votre ouvrage, il y a beaucoup de place qui est réservée au pénis. Où en est-on de la recherche sur les organes féminins?
C'est bien le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de choses sur les pénis, enfin les organes génitaux masculins d'une manière générale, avec une variabilité, vous l'avez dit au début, assez incroyable, qui m'a vraiment surprise.
Et pour les organes, les pénis à gouttière.
Oui, les pénis à gouttière à quatre glands, les doubles pénis accrochés, épineux, tire-bouchon, mobile, sonore. Enfin bon, il y en a toute une variabilité assez impressionnante en lien avec les comportements sexuels d'ailleurs. Et c'est vrai que pour les organes génitaux féminins, on connaît beaucoup moins de choses. Et ça, c'est un vrai biais scientifique pour comprendre les coévolutions, c'est-à-dire comment l'évolution des organes génitaux masculins ont pu évoluer en fonction des organes génitaux féminins et inversement. Et donc, je vais m'atteler à développer un projet sur les organes génitaux féminins dans le monde animal. On en a grand besoin.
Ça veut dire que l'on sait encore très peu de choses. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une sorte de tâche aveugle. Comment l'expliquer ?
Oui. Bah, en fait, je pense que sans rentrer dans des débats macho, pas macho, dans le monde scientifique, je pense qu'il y a une vraie difficulté à avoir accès déjà à l'anatomie des organes génitaux féminins. C'est plus facile de conserver, hein, pour parler de manière abrupte, c'est plus facile de conserver un pénis que de conserver un vagin. Après, je pense qu'il y a aussi il y a eu un biais assez général en science qui existe toujours, qui est en train de s'amoindrir sur l'étude des femelles. On a beaucoup plus étudié les mâles, parfois aussi pour des vraies raisons de faisabilité, c'est-à-dire que chez les mâles, il y a moins de variations hormonales, par exemple, et donc c'est plus facile d'avoir des populations stables que chez les femelles. Mais il n'empêche que ça devient indispensable d'étudier davantage les femelles, y compris dans le domaine médical, hein, au passage, mais pour nos histoires d'évolution, parce que, par exemple, quand le pénis du canard il est en tire-bouchon, et qu'on sait maintenant que le vagin de la femelle est en tire-bouchon aussi, et parfois en sens opposé pour limiter la pénétration des mâles, si vous n'avez pas l'organe génital de la femelle, et ben vous ne pouvez pas comprendre comment le mâle a évolué en fonction de la femelle. Donc c'est vraiment un gros biais, et il faut qu'on comble ça très vite.
Et oui, parce qu'en fait, dans votre livre, Emmanuel Pouy-Débat, Sexus Animalus, il est notamment question des différentes stratégies et morphologies que développent les femelles pour se protéger des viols et du harcèlement.
Y a les femelles ripostent, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, viols, de harcèlement dans le monde animal. On parlait des canards, c'est le cas aussi chez les dauphins, par exemple. Et vous avez des femelles qui ripostent à leur manière. Alors, chez les insectes, il y a une stratégie qui est assez extrême. Chez les psos, que ça s'appelle, c'est comme une minuscule mouche, si vous voulez. Elle a développé un faux pénis qui est épineux. Et c'est elle-même qui pénètre le mâle, d'ailleurs, pour aller chercher le sperme, hein. Donc, l'accouplement peut d'ailleurs durer 70 heures, hein. Donc, vous voyez, c'est assez extrême. Et puis après, y a des femelles, chez les dauphins, j'en parlais tout à l'heure, elles ont développé des plis à l'intérieur de leur organe génital, hein, pour limiter les pénétrations. Il y a même des systèmes de clapets pour bloquer le sperme des indésireux. Voilà, il y a plein de stratégies comme ça. Les chauves-souris, par exemple, ont des banques de sperme. Et puis, il y a des femelles aussi qui sont relativement violentes avec les mâles pour choisir le plus vigoureux, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, il y a tout un tas de ripostes chez les femelles et on les connaît encore une fois pas assez parce qu'elles sont sous-étudiées. On va remédier à ça.
Mais ça veut dire que, à contrario, on voit par exemple des stratégies d'exclusivité.
De la part des femelles, oui. C'est-à-dire que vous pouvez avoir vraiment des femelles qui vont choisir le sperme selon quel processus, on ne sait pas encore, hein, mais qui vont choisir le sperme visiblement qui les intéresse le plus. Alors sous quels critères, on ne sait pas encore, mais en tout cas probablement le plus efficace pour la fécondation. Et puis vous allez avoir des femelles qui vont sélectionner des individus qu'elles estiment être les plus attractifs pour assurer une descendance probablement la plus solide possible. Après, il y a à l'inverse, il y a aussi beaucoup de mâles, hein. Il y a énormément de compétition chez certaines espèces entre les mâles pour sélectionner les femelles. Et le viol arrive parfois quand justement il y a moins de femelles et qu'il faut absolument s'accoupler. Chez les canards, par exemple, c'est flagrant. Le viol, il arrive uniquement quand les femelles sont moins nombreuses.
Et la question du genre chez les animaux, Emmanuel Poudeba ?
Ah, alors la question du genre, elle est complexe parce que vous allez avoir des animaux qui potentiellement ont les deux sexes. Et puis, ça va même plus loin que ça. Il y en a qui n'hésitent pas à parler de transgenre, par exemple chez les poissons clowns. Vous savez, c'est le petit poisson qu'on voit dans Nemo, le héros de Nemo. En fait, alors lui, il change de taille et de sexe en même temps. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une hiérarchie chez ces poissons-là, avec une dominance qui est assurée par une grosse femelle. Qui d'ailleurs dépend de l'anémone, hein, dans laquelle elle se trouve. Et quand il y a un décès de cette femelle dominante, eh bien c'est l'individu qui était positionné juste en dessous qui accède au grade de chef, si vous voulez. Sauf que si cet individu était un mâle, eh bien il peut changer de sexe pour devenir une femelle et assurer ainsi de la reproduction avec les autres individus.
Merci beaucoup, Emmanuelle Pouydéba. Je rappelle que vous êtes chercheuse en biologie de l'évolution au CNRS et vous avez publié Sexus Animalus, tous les goûts sont dans la nature, aux éditions Artaud.